Bonsoir à tous, merci d'être venu malgré l'heure relativement tardive quand même de cette conférence, enfin cette petite rencontre plus qu'autre chose. Vous pouvez évidemment m'interrompre, me questionner gentiment le cas échéant. N'ayez pas peur, vous pouvez même vous approcher, nous ne sommes que 8 dans la salle, mais si vous voulez dormir au fond, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous parler un peu de la Maison d'ailleurs, unique musée en Europe, en tout cas lié à la science-fiction, peut-être même au monde, puisqu'il y a un autre musée, mais qui n'est pas un musée public, qui se trouve aux États-Unis. Et vous parler un peu de ce qu'on fait dans ce cadre-là, dans ce lieu un peu hors du commun. Alors, Maison d'ailleurs, c'est quoi? C'est un musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, et vous verrez pourquoi est-ce que c'est science-fiction, utopie et voyages extraordinaires. Ça se trouve à Yverdon-les-Bains en Suisse, une bourgade entre Lausanne et Neuchâtel, donc à 45 minutes peut-être de Genève, donc vraiment pas très loin de la France, hein, à quelques heures de métro, de train de Paris. C'est un lieu qui a une histoire assez intéressante à mon avis. Elle a été fondée par un écrivain français qui s'appelait Pierre Versin, de son vrai nom Jacques Chanson. Et qui a eu une histoire, une vie assez tragique. Il a été, on voit un peu sous cette photo, mais pas très bien, je crois, sur l'avant-bras gauche, le tatouage d'un camp de concentration. En 1944, il a été donc envoyé, il a été attrapé par le service de sécurité allemand, alors qu'il passait des armes entre la France et l'Espagne. Et il a été envoyé à Auschwitz, et ensuite dans différents autres camps de concentration et camps de prisonniers. Et si je raconte ça, c'est que c'est un rapport avec l'utopie et la science-fiction, parce qu'il a eu l'impression d'être pris dans une construction mentale, si on veut, dans un espèce d'environnement contre-utopique, et ça a participé à son intérêt pour les lieux d'utopie et les lieux de la science-fiction. Et suite à son passage dans les camps, il a été envoyé ensuite en Suisse pour se remettre, on va dire, d'aplomb. Et pendant plusieurs années, il a vécu en Suisse, entre autres en sanatorium, et comme il ne pouvait pas travailler, il a commencé à collectionner de la science-fiction. Et c'était le premier fan, on va dire, véritablement, dans le domaine francophone, qui a lancé un fanzine qui s'appelait Ailleurs, dans la fin des années 40, début des années 50. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé propulsé à l'avant, si on veut, de la scène de la science-fiction francophone. Et comme il n'y a personne qui avait des collections de science-fiction à cette époque-là, aucune bibliothèque, etc. Il a commencé, dans les années 50, à amasser une bibliothèque qui s'est retrouvée véritablement être le fonds documentaire le plus important en Europe sur la science-fiction. Et en 1976, je ne vais pas vous lire ça, mais en gros, c'est la décision municipale de la ville qui dit qu'avec cette collection incroyable, ils veulent en faire un centre de recherche et de documentation et d'études sur la science-fiction. Eh bien, il y a cette collection qui est donnée à la ville d'Yverdon-les-Bains et qui devient un centre de recherche. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images de la collection. Aujourd'hui, cette collection, c'est plus de 100 000 documents de toutes sortes qui viennent de cette collection Pierre Versin, donc de la science-fiction ancienne, de la science-fiction plus récente, on va dire, des magazines, par exemple, des magazines francophones, anglophones, des cartes à collectionner de toutes sortes. Ici, par exemple, ces fameuses vignettes Weimar qui représentent, qui en 1901 montraient comment est-ce que l'an 2000 devrait, enfin à quoi il ressemblerait l'an 2000. Hein. Là, vous voyez que si ça avait été le cas, je pourrais simplement mettre ma petite intervention dans cette machine et vous relier, ce serait quand même plus simple. Ou des choses plus récentes comme les cartes Mars Attacks ou autres. Donc 100 000 documents de ce type, mais aussi tout ce qui est lié au cinéma, photographie de films, affiches, films eux-mêmes, objets, jouets, disques, et j'en passe. Dans une quarantaine de langues, en tout cas 42, dont certaines langues dont je ne suis pas sûr de l'existence encore. Évidemment, toutes sortes de collections importantes, comme Perry Rodan, vous connaissez sans doute, qui est cette grande série de science-fiction allemande. En gros, on a en quelque sorte, on va dire, une fabuleuse collection de souvenirs du futur, en fait, vision futuriste Mais pour un musée de la science-fiction, il y a quelques problématiques, on va dire, que je voudrais aborder en quelques minutes avec vous. La première chose, c'est que la définition de la science-fiction, comme vous le savez sans doute, est difficile, hein, est ouverte. Donc, on doit avoir une définition de travail. C'est une culture aussi qui est très variée. Donc, ce que le public attend et ce que nous, on peut présenter sont deux choses différentes. Et l'image qu'a le public de la science-fiction, ce n'est pas forcément l'image d'un musée. Alors, la science-fiction, c'est quoi pour nous? Pierre Versin, justement, le fondateur du musée, l'a défini comme étant la conjecture romanesque rationnelle. Et je vous en reparlerai d'ici un petit moment pour expliquer ce que c'est. En gros, c'est un genre qui essaie de dépasser le quotidien, le connu, sans abandonner la raison, sans abandonner la logique. Donc, c'est un genre qui met l'homme et ses accomplissements au centre d'une réflexion, pas seulement liée au futur, mais vous savez bien, il y a l'Uchronie, par exemple, ou les histoires parallèles et autres. Donc, c'est une extrapolation rationnelle dans un contexte de fiction, non pas de futurologie. Donc, la science-fiction, évidemment, c'est un espèce de jeu mental qui sait qu'elle est fiction. Et comme le dit ici Maurice Renard, qui dit que le roman d'hypothèse, donc ce que lui appelle roman d'hypothèse, c'est la science-fiction, remplace au 19e siècle, au 20e siècle, le conte philosophique, eh bien, c'est pour ça que la maison d'ailleurs s'appelle Musée de la science-fiction, de l'utopie et des voies extraordinaires. Il y a, en fait, pour Pierre Versin, dans utopie, voies extraordinaires et science-fiction, ce qu'il appelle un commun dénominateur, et qui est justement le fond conjectural, romanesque et rationnel. Donc en fait, il y a une ligne temporelle, on va dire continue, entre Utopie de Thomas More, Voyage extraordinaire de Jules Verne, et science-fiction de Hugo Gernsback, Gernsback étant la personne qui a inventé le terme de science-fiction en 1926. Donc ce sont des termes liés à des périodes historiques pour désigner le même processus créatif, en fait, conjectural. Voilà, donc en fait, on essaie de travailler avec cette définition qui n'est pas forcément hyper simple. Je passe un peu sur la portée politique de la science-fiction. C'est aussi un genre, comme je l'ai dit, qui est évidemment très divers. J'ai pas besoin. Enfin, si vous êtes là, vous le savez très bien. Ça va de représentations récentes d'extraterrestres à des choses plus anciennes comme ce cartonnage. Donc toutes des choses qu'on doit rassembler à la maison d'ailleurs. Avec les problèmes que ça peut avoir. Par exemple, l'un des problèmes qu'on a souvent, les journalistes m'appellent fréquemment pour me demander qu'est-ce qui va se passer dans tel ou tel avec tel ou tel événement dans le futur, puisqu'on imagine que la science-fiction, c'est la prospective, que ça va décrire en fait, forcément l'avenir, et que moi, en tant que direction de la maison d'ailleurs, je suis un peu Madame Soleil en Suisse, évidemment, ça fait beaucoup rire tout le monde, mais c'est vrai que la science-fiction a quand même imaginé les choses, comme vous le savez aussi, qui sont produites, mais peut-être un peu par hasard. Ici, le téléphonoscope de Robida, hein, qui permet dans les salons de voir les choses à distance entre la télévision et Internet. Ici, un autre exemple de coïncidence étonnante de la science-fiction. Le détournement d'avion avec une bombe atomique à l'intérieur qui va s'écraser sur Manhattan. Mais aussi des prédictions évidemment sans fin. J'ai tendance à dire que la science-fiction ne se trompe jamais puisqu'elle ne cherche jamais véritablement à avoir raison. C'est ce qu'on essaie de montrer à la maison d'ailleurs. Par contre, un des problèmes qu'on peut avoir dans le cadre d'un musée, c'est que pour le grand public et les autorités, la science-fiction, c'est ça. Non seulement ce sont les effets spéciaux, ce sont des choses hyper technologiques, mais c'est aussi un succès public énorme. Et nous, ce qu'on montre à la maison d'ailleurs, c'est plutôt ça, en fait. Donc, c'est plutôt des choses anciennes, c'est plutôt une réflexion, on va dire, autour du livre et de l'imprimé, pour les questions de moyens, mais c'est aussi puisque, évidemment, c'est un musée que moi, je considère qu'un peu comme un musée d'art et d'histoire, si on veut, dans un domaine spécialisé, celui de la science-fiction. Alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour montrer la science-fiction au grand public? Tout d'abord, on fait des expositions. On a un espace d'exposition qu'on a inauguré il y a à peu près un an, qui s'appelle l'espace Jules Verne, qui montre les débuts de la science-fiction, en fait l'utopie, le voile extraordinaire de Jules Verne, les pulps. Donc c'est un grand lieu de réunion, de recherche, de documentation, d'exposition, en fait, où on présente de la science-fiction ancienne. Donc justement ces collections anciennes que l'on a, donc dans ce cadre-là, assez, on va dire, assez cosy comme ça, mais aussi à travers des maquettes, des ouvrages, des bancs interactifs, ce genre d'iconographie, on va dire, plutôt ancienne et qui montre les racines très très anciennes de la science-fiction, qui permet de justifier aussi le fait qu'il y ait un musée dans ce domaine-là. Donc des choses que, évidemment, le grand public ne connaisse pas, comme ici le voyage à l'intérieur de la Terre du milieu du XVIIIe siècle de Holberg, où il passe en Norvège, enfin, il va en Norvège et il se retrouve dans la Terre creuse, etc. Ou des images, là aussi, très belles du XIXe. Et bien évidemment Jules Verne, puisqu'on est avec Amiens et Nantes, l'un des trois gros centres de recherche et de documentation sur Jules Verne, avec une collection documentaire tout à fait exceptionnelle. On a aussi dans cet espace-là la plus grande collection de pulps. Vous savez sans doute ce que sont les pulps, ce sont les magazines de science-fiction, entre autres, des années 20 aux années 40 ou 50. On a une collection complète en fait de tous les pulps de science-fiction anglo-saxons qu'on a liés à Jules Verne, évidemment, puisque dès le départ, ils ont été mis sous le patronage de Jules Verne. Ici, une collection, une image de couverture de Amazing Stories où on voit la tombe de Jules Verne, hein, qui était, on va dire, le saint patron, en quelque sorte, de la science-fiction lorsque le terme a été inventé. Ça, c'est la salle sur les pulps où on a justement des milliers de documents sur ces magazines. Voilà, juste deux, trois images pour vous voir un peu le type d'environnement dans lequel on est et ce qu'on présente à la maison d'ailleurs de façon permanente. Mais, et peut-être avant toute chose, la maison d'ailleurs, c'est un lieu aussi d'exposition temporaire. Donc, deux à quatre fois par année, on monte des grosses expositions, soit sur des thématiques, voyage dans l'espace, homme du futur, voiture volante, la ville de demain, etc. Soit des expositions sur les artistes. Ici, par exemple, l'illustrateur et dessinateur de bande dessinée, Dave McKean, qui a fait toutes les couvertures de Sandman, par exemple, beaucoup d'autres bandes dessinées. Il a reçu le Grand Prix Angoulême sous Ferreur en 98, quelque chose comme ça, pour Cages. Une grande exposition rétrospective qu'on a fait justement à la maison d'ailleurs sur son travail d'illustrateur, de photographe, de manipulateur d'images, etc. Peut-être 300 images. Donc c'est un lieu quand même assez grand, vous verrez un peu quelques images. Ici, une autre exposition assez délirante qu'on avait fait en 2004 avec entre autres Gilles Francescano, que je salue, qui est dans la salle, qui s'appelait Merci de ne pas nourrir les artistes, qui était un environnement en fait, d'ateliers d'artistes dans lesquels les illustrateurs et artistes de science-fiction travaillaient en direct et en public. Donc, le public pouvait interagir pendant plusieurs semaines avec les illustrateurs, les sculpteurs, les peintres, les infographistes du domaine de la science-fiction et de l'étrange. Et ici, c'était un des ateliers, justement. Quoi. Des expositions qui mêlent, évidemment, réflexion thématique, on va dire, et travail d'artiste. Ici, l'œuvre de Lux Keuten, une exposition qui s'appelait Archiborescence, sur les nouvelles villes du futur, l'urbanisme végétal, et comment est-ce que l'homme peut être mis en rapport en fait, avec son environnement à travers l'habitat. On a aussi une ou deux images de cette exposition, qui a voyagé ensuite, entre autres, après à Bruxelles et à Nantes, dans le cadre du Festival des Utopiales. Là, une exposition thématique aussi et une exposition d'artistes avec presque 500 images, l'expo qui rend fou, l'exposition, seule exposition, sauf erreur, consacrée à H.P. Lovecraft, il y avait près de 500 images de tous les pays, une centaine d'illustrateurs, exposition totalement délirante qui va voyager aussi, entre autres, bientôt à Brown University où il y a les archives de Lovecraft. Des expositions où on essaie de faire, enfin assez grand public, hein, mais on essaie de faire se mêler science et fiction. On essaie toujours d'avoir un espèce de, même dans les expositions liées aux artistes, un discours sur la science, la technologie, mais ça peut être la science aussi humaine ou l'histoire. Ici, par exemple, la paléontologie avec l'exposition Dinotopia, qui a pas seulement voyagé aussi. Donc chaque fois, la maison d'ailleurs, c'est le lieu généralement qui crée cette exposition, et ensuite cette exposition, je vais vous montrer, voyage un peu. L'exposition actuelle que nous avons créée également s'appelle Ligne de fuite, l'exposition sur Mervyn Peake, l'œuvre illustrée de Mervyn Peake. Mervyn Peake, vous ne connaissez peut-être pas, c'est peut-être le plus grand illustrateur anglais du XXe siècle, qui travaille beaucoup sur Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est une image d'Alice au Pays des Merveilles, d'autres images aussi que je vais vous montrer. et surtout un des très très grands écrivains de l'imaginaire, avec une série de trois livres qui s'appelle la série des Titus, Gormenghast en anglais, et qui a une série d'ouvrages vraiment incroyable qui a été écrit dans les années 40. Donc ça, on a fait là un travail en fait, de recherche historique de documents, et c'est l'exposition qui va tourner un peu en Angleterre. Ça, ce sont un peu les espaces à l'intérieur du musée de cette exposition sur Mervyn Peak, donc ligne de fuite. Et là, deux images tirées de cette exposition. Sur votre gauche, le capitaine Massacre à bord, qu'on espère faire paraître en français peut-être l'année prochaine. Donc une sorte de pirate pour enfants totalement délirante. Et à droite, c'est une image tirée de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, également illustrée par Mervyn Peak. On essaie d'avoir une vision relativement large dans ces expositions temporaires. Donc pour nous, la science-fiction, je vous ai parlé de cette définition. C'est pas seulement évidemment les vaisseaux spatiaux, c'est pas seulement les robots, etc. Des fois, on va même assez loin dans l'éloignement, on va dire, du corpus. On va, par exemple, ici, l'exposition qui s'appelait Monde Miroir, Utopie personnelle d'artistes visionnaires. En fait, on a montré les environnements urbains et d'habitation de gens qui retravaillaient totalement leur environnement d'après leur utopie personnelle, leur image mentale. Donc, ils transformaient véritablement leur lieu de vie de façon extrême. Ici, par exemple, une des maisons de Richard Greaves, un artiste qui habite dans le Canada, en Gaspésie, et qui se retrouve à construire lui-même des maisons faites à partir des restes de la civilisation en fait, industrielle dans laquelle il vit. Donc, des choses assez intéressantes qui permettent ensuite de montrer des expositions à l'extérieur. Justement, je crois que l'une des choses, on va dire, intéressantes pour le domaine en général de la science-fiction, c'est chaque exposition que la Maison Bayer monte, eh bien, elle voyage dans le monde entier. Ici, ça, c'est aussi loin que le Japon, par exemple. C'est l'exposition Monde Miroir, justement, qui se retrouve près de Kyoto. Mais toutes les expositions qu'on monte voyagent, même parfois en France, en Allemagne, en Espagne, et j'en passe. Ici, cette exposition aussi au Japon. Là, l'exposition, on travaille fréquemment en étroite collaboration avec le Festival des Utopiales de Nantes. Ici, une exposition de Tomati et François Junot. Et la plupart des expositions que l'on monte à la Maison Bayer se retrouvent à Nantes, en fait, quelques mois plus tard. On monte aussi des expositions qui voyagent sous d'autres formats. Ici, on a fait une série d'expositions qui était assez marrante, qui était faite sur des DVD. En fait, donc, on envoie les DVD dans les pays, souvent, on va dire, en voie de développement, dans les ambassades en Suisse. Les ambassades suisses font des tirages, des impressions d'images et montent ces expositions dans différents endroits. Ici, une exposition sur les designers suisses à Hollywood. Il n'y a pas le designer, bizarrement, qui habite en Suisse ou qui ont habité en Suisse ou qui sont suisses, qui travaillent dans le domaine du cinéma ou du jeu vidéo. Une grosse exposition qu'on a faite pour la Fondation Suisse pour l'art et la culture, avec, entre autres, Asher Giger, le père de Alien, John Ho, que vous connaissez sans doute, qui a fait Le Seigneur des Anneaux, qui maintenant est en Nouvelle-Zélande pour faire The Hobbit, Christian Scherer, qui a pas mal travaillé sur Le Cinquième Élément, entre autres, Matrix aussi, Dick Ferrand, qui est un illustrateur suisse également, qui travaille dans les effets spéciaux à Hollywood. On a justement fait connaître, on a utilisé le véhicule du genre, puisque c'est principalement dans les films de genre, de science-fiction, de fantastique, qu'on utilise les effets spéciaux pour monter cette exposition. Donc, sous prétexte de montrer les techniques, entre autres, de travail sur... voilà, je vous montre encore une petite technique, par exemple, ici. Et bien, ce type de technique, sous ce prétexte-là, eh bien, on a pu montrer le travail d'artistes, entre autres de science-fiction, principalement de science-fiction suisse, mais pas seulement, un peu dans le monde entier. Donc, ça, c'est les travaux qu'on fait. Donc, vous pouvez voir donc, différents... HFX, qui a travaillé sur les romans Hellboy et plein d'autres projets, et qui a longtemps habité en Suisse, qui vient de Suisse. Quoi. Donc ça, c'est l'un des projets sur lesquels on a travaillé parmi de nombreux autres projets. On essaie de faire la promotion aussi de projets science-fictifs purement suisses. Il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns. Un que vous ne verrez sans doute jamais, malheureusement peut-être, premier et peut-être dernier film de science-fiction suisse qui s'appelle Cargo. Ça, c'était un des travaux préparatoires. Ça, c'est une image du film Moi, je trouve très belle, je ne sais pas si on la voit bien, mais un film qui est resté comme à l'affiche près de 3 jours en Suisse, donc, qui a fait 25 000 entrées. Donc, je pense que ce sera une première et une dernière pour le cinéma de genre en Suisse. Ça, c'était le type d'exposition justement qu'on envoie sur DVD et qui peut être monté un peu autour du monde. Là, c'est en Suisse. Mais là, par exemple, c'était l'exposition qui s'est montée en Ukraine, elle s'est montrée en Roumanie aussi, là, en Espagne, et qui était un système, on va dire, de présentation de l'exposition, à la fois hyper bon marché, et qui permet justement à plein de gens de montrer des illustrateurs dans les conditions. Ben, c'est eux-mêmes qui décident des conditions d'exposition, donc des fois, c'est vraiment la surprise, la mauvaise surprise, des fois, c'est vraiment bien. Toutes sortes d'événements aussi qu'on réalise à la maison d'ailleurs. Ça peut aller de conférences, de débats, ici, présentation d'artistes par exemple. Ça peut être des choses qui sont à l'extérieur du musée. Là, par exemple, on avait envoyé un beau manuscrit de Jules Verne dans ce vaisseau spatial, le Spaceship One, qui est le premier vaisseau spatial privé de l'histoire, histoire de faire de la promotion de la science-fiction et de la maison d'ailleurs, puisque Jules Verne avait imaginé que la conquête spatiale était une affaire privée et non pas une affaire d'État, on va dire. Eh bien, on s'est dit qu'on pouvait envoyer quelque chose de Jules Verne dans l'espace. Un autre événement un peu délirant qu'on avait organisé, qui s'appelait l'Orchestre Céleste, c'était le survol de la ville dans laquelle se trouve le musée, donc Hiver dans les Bains, par 8 montgolfières, très tôt le matin, 6 heures, avec de la musique expérimentale pour réveiller les habitants et transformer leurs rêves. Alors évidemment, on s'est fait accuser de tous les mots, satanistes et autres. Personne qui essaye de transformer les rêves des gens, c'était un peu bizarre. Mais de répondre au téléphone de la maison d'ailleurs, j'avais reçu quelques messages pas piqués d'un ton. C'était assez intéressant. L'autre, alors ça c'est voilà, donc les deux premiers types de choses qu'on fait, ce sont les. Oui. On m'a pas tiré dessus, mais par contre, ce qui s'est passé dans le. Non, on m'a pas tiré dessus, par contre, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu dans le passé, c'est que certaines œuvres. Qui a été exposé à l'extérieur du musée ont été, on va dire, soit endommagées, soit recouvertes. Par exemple, il y avait une grande sculpture de H.R. Giger pendant plusieurs mois devant la maison d'ailleurs, qui chaque jour, en fait, quand l'équipe du musée arrivait, était recouverte avec des chapeaux, des t-shirts, avec des trucs genre sataniques, voilà. Donc, il y a eu des réactions publiques. Mais depuis quelques années, beaucoup moins quand même. Et là, c'est vrai que je craignais un peu le pire avec la musique expérimentale au-dessus de la ville. Mais en fin de compte, tout le monde a trouvé ça très beau. Donc, et ce n'était pas vraiment du punk rock non plus. Hein, c'était quand même plutôt calme. Donc voilà, des expositions, des événements, mais aussi, et peut-être avant tout, un centre de recherche et de documentation. La maison d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les universités. Ici, un projet qu'on a fait avec l'université de Lausanne, qui s'appelait Le Boulon de Main, tout un travail de recherche sur l'histoire, la société, et la politique dans le domaine de la science-fiction, un colloque universitaire. Peut-être le projet le plus important qu'on ait fait, qui s'appelle le projet ITSF, Innovative Technologies from Science Fiction for Space Applications, technologies innovantes tirées de la science-fiction pour les applications spatiales. Je vous montrerai après, il y a un site. Un projet qui nous a été commandé par l'Agence spatiale européenne, il y a de ça plusieurs années. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens de l'Agence spatiale européenne se sont rendus compte qu'il y avait dans la littérature et l'imagerie de science-fiction beaucoup de gens qui décrivaient l'espace, évidemment. Quoi. Et ils se sont dit, voilà, s'il y a 5000 personnes, illustrateurs, écrivains, artistes et autres, qui travaillent sur l'espace, à imaginer l'espace, les technologies de l'espace, ce serait quand même un peu dommage de ne pas les voir là-dedans s'il n'y a pas des choses dont on peut s'inspirer pour la vraie recherche. D'autant plus qu'il y avait des précédents. Vous avez peut-être entendu parler du programme Star Wars, et c'est un programme qui a été lancé en cette espèce de bouclier antimissile, programme qui avait été lancé en 1983 par Ronald Reagan, et il y avait entre autres un comité de réflexion autour de ce programme qui était entouré, qui était composé par des écrivains de science-fiction, Gregory Benford, Larry Niven, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, et qui était faisait partie de ce comité de conseillers au président Ronald Reagan à l'époque. Donc l'Agence spatiale européenne est venue vers nous, nous a dit voilà, il y a des choses de toutes sortes dans la science-fiction liée à l'espace. On leur a montré évidemment ce genre de choses, mais ça les intéressait moyennement. Donc à partir de, on a commencé à étudier la science-fiction à partir de Jules Verne, on va dire, et du rapport à l'espace dans la science-fiction pour sortir des idées. Évidemment, il y a un peu un problème, puisque moi je ne fais que répéter à qui veut l'entendre que la science-fiction, c'est pas un genre prédictif, et qu'il faut, avant tout un genre qui utilise une grande liberté artistique, en fait, que la technologie, c'est un outil pour raconter une histoire. Donc, accepter un mandat d'aller voir dans la science-fiction, c'est des choses utiles qui ont été utilisées, enfin, qui seraient potentiellement utilisables pour le domaine spatial, c'est un peu presque contradictoire. On l'a quand même fait parce que l'appât du gain était plus fort que le reste, mais aussi parce que, évidemment, on pensait que c'était une façon de faire la promotion de la science-fiction et de la maison d'ailleurs. Donc on a sorti plein d'images, je vous montre 2-3 choses, plein de documents liés au domaine spatial. Hein. Ça allait de choses du 19e siècle à nos jours, hein, puisque dans nos collections, on a évidemment énormément de choses. Et on a monté un très gros site internet. C'est juste quelques images de documents qu'on a pu utiliser. Ça allait des choses les plus farfelues aux choses les plus sérieuses, soi-disant. De la art science, mais aussi de la bande dessinée, des films, et j'en passe. Donc, on a passé en revue des centaines et des centaines, voire des milliers d'œuvres de science-fiction. On a travaillé sur une grosse plateforme internet qu'on a mise en place pour rechercher ces images et ces objets et ces idées originales pendant plusieurs mois, même plusieurs années. On a passé 2 ans à faire ça, à peu près, en parallèle d'autres activités, bien sûr. Et on a fait une base de données dans laquelle on a recueilli pas loin de 700 idées potentiellement intéressante. Ça a évidemment de choses, je vous montrer un peu en quoi ça consiste. Si vous allez sur cette adresse internet là, www.itsf.org, vous pouvez voir les restes en fait de cette recherche. Il y a entre autres une brochure grand public qu'on a fait illustrée par Manchu et d'autres, Gilles Francescano et d'autres illustrateurs français et européens, qui permet de voir un peu. On a fait une version justement au grand public de cette recherche-là. Alors, quelques idées qui ont été retenues par cette étude, sur le site, il y en a beaucoup plus. Hein. C'était des choses comme la terraformation, les ascenseurs spatiaux, les différents types de systèmes de transport personnel dans l'espace, c'était les ordinateurs intégrés aux vêtements, les voyages spatiaux de longue durée, hein, par exemple les arches stellaires, les biosphères, voilà. Toutes sortes d'idées qui ont été exploitées, qu'on a bien décrites, documentées, et qu'on a envoyé à l'Agence spatiale européenne et qui peut-être traînent sur leur bureau, mais pas uniquement. Il y a des choses qui ont. Il y a eu un peu de la réflexion autour. Ils ont lancé plusieurs recherches. Ils ont lancé une recherche sur le biomimétisme, donc le fait de s'inspirer de la nature, comme on le voit souvent dans la science-fiction, pour des déplacements spatiaux. Il y a tout un travail autour de l'ascension spatiale aujourd'hui qui se fait à la NASA et un peu à l'Agence spatiale européenne, entre autres parce que leur intérêt a été soulevé de nouveau par notre étude. Alors évidemment, l'ascension spatiale, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par la science-fiction, mais comme vous le savez bien, la science-fiction, elle permet elle a contribué en fait à simplement populariser certaines technologies. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est simplement redonner aux ingénieurs de l'Agence spatiale européenne des technologies qu'ils connaissaient souvent déjà, mais qu'ils avaient soit oubliées, soit qu'ils trouvaient peut-être obsolètes, histoire qu'ils se replongent là-dedans. Ça a été aussi le prétexte pour lancer un gros concours de nouvelles, parrainé par Arthur C. Clarke avant son décès, et par Ray Bradbury. On a reçu pas mal de textes de tous les pays, 36 pays. On a fait 2 publications là autour, une en 2003 et une en 2005. Et on a fait aussi, dans ce cadre-là, on les a convaincus de cataloguer, nous aider à cataloguer, à photographier des milliers de documents de la maison d'ailleurs, puisque ce sont des traces qui évoquent l'espace et qui évoquent l'imaginaire spatial que presque personne d'autre n'a à l'heure actuelle. Donc il y a eu, un projet d'archivage. Et donc ces archives-là, aujourd'hui, on les utilise pour toutes sortes de projets. On a travaillé fréquemment avec des gens, par exemple, à la Cité de l'Espace à Toulouse, où on travaille en ce moment sur une grosse exposition à la Cité des Sciences de Paris, qui est une exposition qui va s'ouvrir en octobre 2010, dont le titre de travail est tout simplement « Science et science-fiction ». Il y a beaucoup d'images qui vont venir de chez nous et qui ont été, entre autres, numérisées grâce à l'Agence spatiale européenne. On a fait des publications, beaucoup, un livre « L'espace entre science et fiction » qu'on a fait avec eux. On a fait une exposition qu'on a présentée un peu dans le monde entier aussi, Retour vers les étoiles, où on présentait, on va dire, la vision de l'imaginaire science-fictif espace et la vision réelle, avec ce qu'elle avait de plus ou moins glamour parfois aussi. Ce qui était intéressant pour nous, je crois, c'était de montrer à l'Agence spatiale européenne que le fait d'utiliser la science-fiction, c'était plutôt quelque chose de positif. En fait, on a fait la une, par exemple, ici, du Herald Tribune en 2000, pas seulement du site internet, mais vraiment du journal. On a été dans tous les journaux, vraiment des journaux du monde entier. Et les gens ont été enthousiasmés, en fait, par l'idée que l'Agence spatiale européenne utilise la science-fiction comme source d'inspiration et se tourne vers l'imaginaire. Donc ça, c'était quelque chose de très, très utile. On a aussi montré, en fait, que la science-fiction est porteuse de rêves. Et que là, en fait, j'ai cité un docteur Chris Mackey, qui est un type qui est en train de travailler sur la terraformation potentielle de Mars. Et lui, il dit que Dune l'a inspiré, non pas comme... c'est pas une espèce de feuille de route, évidemment, pour terraformer Mars, mais c'était une réflexion, on va dire, écologique, en fait, que Mars... enfin, que Dune lui a donné par rapport au projet de terraformation potentielle. Et c'est ce qu'on a expliqué, c'est que la science-fiction était utile pour... pour nourrir le rêve, en fait, des ingénieurs qui travaillent à l'Agence spatiale européenne. Alors, il y a eu d'autres projets de recherche, je vais en évoquer un ou deux, mais assez rapidement. Un qu'on n'a pas mené à bien, parce que c'était un peu contraire à notre éthique, c'était un projet de recherche à la délégation générale pour l'armement, ici, près de Paris, qui voulait qu'on aille voir dans la science-fiction s'il y avait des visions, on va dire, de guerre future qui pouvaient être inspiratrices de... nouveau développement technologique lié à l'armement. Donc ça, on n'a pas fait. Je vous montre juste quelques images anciennes de guerres futures. Il y a évidemment Robida, d'autres illustrateurs ou artistes ont travaillé sur les problèmes de guerres futures. Ici, par exemple, l'image que j'aime bien de Robida, où il parle de réservoir à miasme, qui est une espèce de première version de la guerre bactériologique, en fait, à la fin du 19e siècle. Donc ça, on a été faire une conférence là-bas, ça pourrait être un auteur. J'ai demandé à être accompagné par un auteur de science-fiction pour faire une conférence. On s'est retrouvé avec tous les hauts gradés de l'armée française. J'avais évidemment choisi le pire gauchiste que je pouvais trouver, à savoir Jean-Marc Ligny. Donc ça, c'était une expérience relativement intéressante. Donc on n'a pas mené au-delà de simplement une intervention relativement courte. Une autre recherche que j'ai menée de façon plus personnelle parce que ça m'intéressait, c'était une recherche sur la voiture volante. Et je vais vous montrer deux, trois images sur la voiture volante parce que c'est toujours assez drôle. Parce que tout le monde, évidemment, me pose, enfin, souvent, on me pose la question de savoir où est ma voiture volante. Enfin, où est la voiture volante qui nous a été promise dans les années 20, 30, 40 ou 50. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de répondre à cette question. Je dis, bon, ben, je vais faire une exposition et un livre qui va vous dire où est la voiture volante. Et je vous en parle pendant deux minutes. Alors, la voiture volante, elle est dans notre passé, en fait. Je vais vous montrer ça. Ce qui m'a moins intéressé dans le principe de la voiture volante, vous allez le voir, c'est que c'est l'icône du futur qui nous a été promis. C'est vraiment l'image même, c'est l'objet peut-être le plus représentatif de la science-fiction comme étant quelque chose qui allait représenter l'avenir, l'avenir qui allait se passer forcément, quoi. Et surtout, pour moi, les prédictions qui concernent le transport, entre autres aérien, illustrent assez bien une espèce de passage, une vision, on va dire, d'utopie collective de la fin du XIXe siècle à une utopie plus orientée vers le consommateur, plus orientée vers l'individu, en fait. Donc, au bout d'un moment, la voiture volante, c'est vraiment quelque chose qui va transformer notre environnement personnel, vous allez voir. Alors, évidemment, la voiture volante, ça commence... très tôt, hein, peut-être avec Jules Verne et son épouvante, hein, le maître du monde, hein, d'objet qui est à la fois volant et roulant. Robida, il a plein de voitures volantes aussi. Mais là, ce sont des visions, en tout cas chez Robida, qui sont plutôt, sociétales. C'est tout le monde a la voiture volante, c'est quelque chose qui nous permet à tous de nous déplacer. Là, une autre image de voiture volante. Et en 1920, en fait, on aurait dû arrêter de parler de la voiture volante. Pourquoi ? Parce qu'en 1921, ici, René Tempier, un Français, se rend au salon d'automobile, je crois que c'est le troisième salon d'automobile, là c'est les Champs-Élysées, avec son avion automobile qui permet de voler et de rouler. Donc en fait, la voiture volante, dès qu'on l'a imaginée, elle a été réalisée. Donc on aurait dû arrêter d'avoir cet objet comme objet science-fictif et d'avoir cet objet comme objet réel, si on veut. Quoi. Mais à force d'avoir cet objet comme objet purement lié à la science-fiction, je crois que simplement, c'est quelque chose qui n'a pas pu passer dans le réel. Et dans les années 30, aux années 50, il y a eu plein, je vais vous en montrer quelques-unes, ça ce sont les quelques images de voitures volantes rêvées, il y a eu beaucoup de voitures volantes réelles qui ont été imaginées. Ici, par exemple, l'Arabile, qui est une espèce d'avion dont on peut enlever les ailes, qui a traversé plusieurs fois les États-Unis, ça c'est en 1938, hein, qui fonctionnait à peu près correctement. Ici, l'Airfibian, d'un type qui s'appelle Robert Fulton, un inventeur, qui était aussi un avion roulant, une voiture volante. Vous pouvez prendre votre petite famille, et bon, mais peut-être pas toute la famille, puisqu'il n'y a que deux personnes qui pouvaient être dans cette voiture. Donc, votre femme, le chien et les deux enfants restent sur le tarmac. Par contre, vous pouvez aller, elle peut aller faire les courses, par exemple. Comme là. Je vous montre, juste pour vous montrer que c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Image d'archives, quand même très très rare. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que la voiture volante, c'était quelque chose qui existait, qui fonctionnait. Ça, c'est l'Airfibian, par exemple, il a eu 5 de produits. Mais c'est quelque chose qui n'est jamais passé dans le réel, malgré tout. Ça existait, mais personne, tout le monde trouvait tellement une icône du futur, en fait, que personne n'y croit. Et quand on dit que les voitures volantes ont existé, en fait, personne ne va. Vous, maintenant, vous me croyez peut-être, puisque, mais vous êtes les seuls. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui ne croient pas. C'est une voiture volante. Ça, c'est une voiture. Mais je vais vous en montrer d'autres, vous allez voir. Voilà. Alors bon, ça, c'est toujours le rêve de la voiture volante. Theodore Hall, lui, qui était un ingénieur génial, voilà, lui, il commence à faire une première voiture, voilà, et ça marche pas trop mal, mais les gens ne sont pas intéressés. Finalement, il en fait une autre, là, de nouveau, pas très belle voiture, là, la Convair Car. Finalement, il se dit, bon, il faut vraiment faire une vraie voiture volante. Il invente ce système. Donc il y a un module volant et un module roulant. Et le module roulant, c'est véritablement, ça c'est la couverture du livre que j'ai écrit sur le sujet, c'est vraiment une voiture, comme vous pouvez le voir, hein. C'est une voiture qui était en fibre de verre à l'époque, donc matériaux quand même relativement innovants et qui volait, en tout cas pendant un petit moment. Là, en l'occurrence, elle s'est écrasée lors de son vol d'essai, mais, mais c'est parce que le type qui était aux commandes a confondu la jauge d'essence de la partie volante et la partie roulante, puisque tout était séparé pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème, et se disant qu'il avait encore beaucoup d'essence, là il s'est écrasé. Mais il n'est pas mort. Mais c'était évidemment une publicité relativement mauvaise pour la voiture volante. Par contre, il y en a une qui a vraiment très bien marché et qui a eu là aussi plusieurs exemplaires réalisés. Ça a tellement bien marché même qu'ils ont passé des commandes, ils ont essayé de faire une pré-vente, si on veut, des précommandes avant de lancer la production industrielle, et ils ont réussi quand même à en vendre 250, mais comme ils ont espéré 500 pour pouvoir vraiment les faire à grande échelle, eh bien ça n'a pas été fait. Mais ça, l'aérocar, c'était une voiture qui a été, c'est presque une smart, hein, c'est presque une voiture quand même, hein, qui se balade avec son, à l'arrière vous voyez qu'il y a sa partie volante. Je vais vous montrer le petit film. Je m'excuse par qualité, c'est de la VHS copiée de Super 8, copiée de je ne sais quoi encore. Donc ça, c'est 1949. Hein. Et encore récemment, pas celle-ci, mais l'un des 5 modèles produits a été mis en vente sur eBay. Et encore, sur les 5 modèles produits, il y en a encore un, voire deux qui volent. Bref, on aurait dû, voilà, c'est quelques belles images aussi de cette voiture. Il y avait même des catalogues, hein, là, vous pouvez toutes les caractéristiques. Il y a eu des objets, des jouets qui ont été faits, donc ça a été, il y a eu une promo incroyable. Mais malgré tout, ça n'a pas pris. Et c'est resté vraiment cette icône d'un futur qui nous a été promis. Ça, c'est une voiture volante qui a été faite dans les années 70, la Mizar, qui était en fait une Ford Pinto, avec des éléments de Cessna, qui sont en fait détachés en vol. Donc les deux personnes qui avaient créé ça se sont retrouvées à, je sais pas, 1000 mètres ou 2000 mètres d'altitude en volant d'une Ford Pinto. Mais celle-ci, par exemple, qui a été faite par un Français qui s'appelle Robert Leboudet, qui habitait pas loin de Paris, justement, eh bien, il allait à la mer chaque fois avec cette petite. C'était, je crois, une espèce de Vespa, voiture, qui était, qu'il avait transformée pour en faire un objet volant. Donc voilà, c'était une des recherches. Je vous montre un peu ce qu'on fait, même les sujets les plus abscons. Mais pour moi, en fait, ça signifie quelque chose, puisque ça signifie que l'influence, si on veut, de la science-fiction est telle, peut-être, dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, c'est tellement un objet de science-fiction qu'on a la peine à croire que ça peut être un objet lié au réel. Hein. C'est lorsque vous voulez représenter le futur, vous mettez toujours la voiture volante. D'ailleurs, ça, c'est celle de Christin qui se trouve, qui est ici. Aujourd'hui encore, il y a pas de recherches qui se font sur la voiture volante, que ce soit Moller, ça fait déjà ce type-là, Paul Moller, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il essaie de faire une voiture volante, ou même plus. La NASA a plusieurs projets, Boeing avait un espèce de projet sur un moment donné, et aujourd'hui, si vous allez sur le net, il y a au moins une dizaine de projets, dont celle-ci, qui s'appelle la Terra Fugia Transition, qui sera, soi-disant, la vraie voiture volante qui va enfin prendre le marché, ce marché de niche. Voilà, c'était juste pour montrer que dans la maison d'ailleurs, on aime aussi des sujets un peu décalés ou étranges. Je vais terminer assez rapidement, puisque on pourra continuer à discuter de certaines choses, par une petite réflexion sur l'art de science-fiction. En fait. Parce que, en gros, lorsque les illustrateurs dans la salle ne vont pas me contredire, lorsque vous faites de l'art de science-fiction, c'est quand même relativement compliqué. La science-fiction, c'est un genre exploratoire, bien sûr, mais c'est un genre narratif. La science-fiction, se doit de raconter une histoire. Donc, faire de l'art de science-fiction sans faire de la littérature ou du film ou de la BD, c'est quand même relativement compliqué. Donc, l'art de science-fiction, par principe, c'est un art illustratif. Mais, à la maison d'ailleurs, on essaie de réfléchir un peu au-delà de ça, peut-être. Ça, c'est juste quelques épisodes de réflexion pour terminer cette rencontre que je vous soumets. Dans un premier temps, avant la science-fiction, avant la naissance de la science-fiction avec ce nom-là, l'art de science-fiction, ce sont les images dans les livres, hein, ce sont les images, c'est purement un art illustratif. Hein. Ici, par exemple, Cyrano Bergerac, ou de nouveau Nicolas Klim, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais plein d'autres, il y a beaucoup d'exemples, sont plutôt les gravures à l'intérieur des romans, des gravures qui reprennent les scènes les plus incroyables que l'on peut avoir, comme celle-ci que je vous ai déjà montré. Les choses commencent à changer avec Jules Verne, puisque pour Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, le dessin devient lui, il dit que c'est un langage, mais c'est aussi évidemment une stratégie commerciale. On commence à publier des volumes, tout d'abord non illustrés, puis des volumes illustrés pour les vendre à d'autres types de publics. Et en gros, les illustrations qui sont dans les ouvrages de Jules Verne viennent renforcer le discours vernien, viennent amener quelque chose de tout à fait particulier, entre autres souligner le côté aventure romantique et découverte scientifique. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les illustrations, entre autres pour Jules Verne, ont marqué les esprits tout autant, si ce n'est plus, que les romans eux-mêmes. Et donc, c'est vers la fin du 19e siècle que ces images, que l'art, l'illustration de science-fiction va s'émanciper du texte et que les illustrateurs vont devenir peut-être tout aussi forts, entre guillemets, dans leur narration que les auteurs. Peut-être avec des gens comme Robida, évidemment, peut-être le plus grand illustrateur de science-fiction de tous les temps, mais ensuite avec les pulps, puisque les images de couverture réalisées souvent avant même que les textes soient écrits, eh bien, elles vont souvent dicter le contenu, elles vont créer en fait l'imaginaire de la science-fiction tout autant que les textes eux-mêmes. Vous savez bien que des gens comme peut-être Virgin Finlay ou Frank Herpol ont probablement plus contribué pour donner une image de la science-fiction, faire de la science-fiction en quelque sorte, que certains des écrivains qui étaient dans ces magazines dans les années 20, 30 ou les années 40. Évidemment, cette illustration de science-fiction, cet art de science-fiction a aussi contribué à renforcer les clichés de notre domaine, aventure spatiale, filles peu vêtues et j'en passe. Ces clichés qui sont passés dans le domaine du grand public, entre autres par par la publicité, entre autres par la carte Mars Attacks, les signes publicités par exemple des années 60 pour Saint-Zano, mais aussi par la bande dessinée, les films, et j'en passe. Et cette iconographie, elle vient quand même en grande partie des pulps de science-fiction. Je crois que l'art de science-fiction et l'illustration de science-fiction va s'émanciper, va sortir, va quitter le livre véritablement à partir des années 60 et 70, entre autres à travers tout ce qui est poster, tout ce qui est ici, par exemple, les calendriers et autres, avec des gens comme Frazetta, H.R. Giger et d'autres, et tous les tenants, on va dire, du réalisme fantastique. Réalisme fantastique qui est un genre qui apparaît, entre autres, avec l'utilisation de plus en plus importante de l'aérographe comme technique de picturale, on va dire.